carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Notre série « Une œuvre, un regard » nous emporte aujourd'hui dans l'univers du peintre franco-chinois qui fut élu membre de l'Académie des Beaux-Arts, Chu Teichun. Le musée Tchernouski, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris, nous a offert une importante exposition intitulée « Artistes chinois à Paris » de 1920 à 1958, dans laquelle Chu Teichun est bien représenté. Comme pour Zhao Wuqi, autre artiste chinois à Paris, devenu lui aussi académicien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio M. Éric Lefebvre, conservateur du patrimoine au musée Tchernouski et commissaire de cette exposition. Éric Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. L'Académie des Beaux-Arts peut donc s'enorgueillir de compter parmi ses membres deux des plus influents peintres venant de cette Chine millénaire, Chu Teichun et Zhao Wuqi, à qui nous avons déjà consacré une autre émission. Notre regard se porte donc aujourd'hui sur Chu Teichun. Et avant de pénétrer plus avant dans l'univers et l'œuvre de cet artiste, pourriez-vous nous donner votre avis, Éric Lefebvre, sur ce qui distingue ces deux artistes au-delà d'une certaine parenté dans leur approche de l'art abstrait, et aussi un parcours assez parallèle. Par exemple, ils sont tous les deux nés en 1920, ils ont fréquenté tous les deux l'école des beaux-arts de Hangzhou, tous les deux ont le même maître Lin Fengmian, tous les deux arrivent à Paris, pas à la même époque, mais pas loin.
Oui, alors effectivement, si on considère rétrospectivement après toutes ces années de création, les parcours de Chu Teichun et de Zhao Wuqi, il y a des points de rencontre. On a l'impression que de loin en loin, ces œuvres et ces hommes se sont croisés. Mais je pense que peut-être ces parcours qui semblent parallèles ou peut-être convergents, puisque tous les deux sont aujourd'hui membres de l'Académie française, cela est peut-être un peu le fruit d'un regard rétrospectif. Si on reprend les choses point par point, on note des différences assez importantes dans leur parcours. Très brièvement, pour parler du début de leur vie en Chine, l'un appartenait plutôt à la région du nord de la province du Jiangsu et était né dans un milieu plutôt rural. Le second, né à Pékin, a vécu une grande partie de sa jeunesse à Shanghai, dans un milieu plus urbain, en tout cas plus cosmopolite que pouvaient l'être les grandes villes du nord du Jiangsu. Donc il y a là, malgré tout, une différence de contexte culturel, même si ensuite tous les deux se retrouvent à Hangzhou. Quant à la petite différence de quelques années qui séparent leur arrivée à Paris, je pense qu'elle est aussi significative entre le Paris de 1948 que Zhao Wuqi aborde et celui de 1955 que Chu Teichun découvre après avoir passé quelques années à Taïwan. Il y a quelques différences qui tiennent en particulier aux rencontres que font faire l'un et l'autre, et qui vont les inscrire dans des milieux un petit peu différents, et donc les orienter de manière un petit peu différente, même s'il y a certains passages obligés, comme par exemple le séjour à l'Académie de la Grande Chaumière, où ils croisent certains Chinois de la génération précédente, comme Chang Yu, San Yu, ou bien Pan Yu Liang. Et d'ailleurs, Chu Teichun a gardé beaucoup de sympathie pour ces figures d'artistes chinois de la première génération, j'ai envie de dire, qui l'ont accueilli à Paris. Et il a noté leur présence dans ses mémoires, même si lui-même a choisi extrêmement vite, finalement, de se tourner dans une autre direction qui va être la direction de l'abstraction. Donc je pense que ces premières années parisiennes déjà les distinguent avec un Zhao Wuqi qui va faire un cheminement très lent, très réfléchi vers l'abstraction après avoir mesuré tous les enjeux et Chu Teichun qui par une sorte de coup de foudre, de brusque revirement, d'un seul coup se jette à corps perdu dans le langage de la peinture abstraite.
Oui, parce qu'en Chine, il a eu une certaine carrière déjà de professeur de différentes universités. Il avait donc une carrière, disons, et artistique et d'homme important.
Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très frappant. Si on compare le parcours de Chu Tae-Chun avec d'autres artistes chinois venus en France dans ces années-là, c'est qu'il n'est plus vraiment un étudiant. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité dans son art. Il a déjà exposé à Taïwan, fait des expositions personnelles. Et donc, on peut dire que c'est avec cette expérience et cette maturité que d'un seul coup, il décide de repartir à neuf et de faire table rase.
Oui, quelque part dans ses différentes biographies, il est question de plusieurs renoncements dans sa vie.
Certainement, l'arrivée à Paris avec Dong Tingzhao, qui va devenir sa femme et puis qui était peintre elle aussi, et le parcours qu'ils vont faire ensemble va être quelque chose de très important. Et évidemment, c'est une nouvelle vie, une nouvelle famille qui commence pour Chu Tae-Chun en France. Une famille aussi qu'il faut élargir à ceux qui vont bientôt occuper beaucoup de place dans ses amitiés artistiques, comme le sculpteur Ferraud, lui-même académicien.
Oui, absolument, oui. Donc en parlant de son parcours, il me semble qu'il reste plus longtemps attaché au style traditionnel par rapport à ses pères, notamment Zhao Wuqi. Évidemment, je le dis sous votre contrôle, Éric Lefebvre.
Alors, c'est sûr que Chu Tae-Chun a manifesté plusieurs reprises son admiration pour les grands peintres de la tradition chinoise, en particulier, je pense, pour les grands inventeurs du paysage chinois, les maîtres de l'époque des cinq dynasties et des Song. Et finalement, je pense que c'est encore à travers sa peinture qu'il a confessé cette admiration d'une manière discrète mais persistante, en n'hésitant pas à dire que derrière, ou en tout cas à l'intérieur de cette peinture qu'on qualifie en général d'abstraite, il y avait toujours la permanence d'un paysage que nous reconnaissons comme un paysage chinois.
Oui, mais évidemment, à Paris, il fait donc d'autres expériences, mais à votre avis, il reste toujours quelques traces du paysage chinois. Parce que, en effet, c'est un de ses thèmes de prédilection, le paysage chinois. Dans sa biographie, il est question de cette tendance pendant la guerre sino-japonaise. Plein d'universités déménagent en quelque sorte à l'intérieur du pays pour fuir les champs de la guerre. Et donc il y a un mouvement d'est à l'ouest et après un retour.
Vous avez raison, je crois que Chu Tae-Chun a découvert au moment du repli de l'Académie des Beaux-Arts vers les régions de l'ouest, les provinces du Yunnan, la province du Sichuan, il a découvert ces grands espaces, ces formidables paysages. Il a découvert aussi les ethnies Miao et les autres ethnies de l'ouest du pays, dont les coutumes sont très différentes de l'ethnie Han, qui, comme on le sait, occupe la part la plus importante dans la population chinoise. Et puis surtout, il y a eu une expérience, je crois, esthétique très profonde. C'était la descente des gorges du Yangtze. Mais cela, c'était plutôt le voyage du retour, finalement, après la guerre. Retour vers le littoral et vers la ville de Nankin.
Oui, qui est devenu un peu son siège, non?
En fait, il était originaire du Jiangsu, et puis la ville de Nankin était la capitale de la province. Elle avait été aussi la capitale de la Chine pendant la période de l'entre-deux-guerres. Donc c'est une ville d'importance majeure où Chu Tae-Chun a bien sûr de très nombreuses attaches. Je crois que ce paysage chinois qui l'habite, il y a des moments tout de même où dans sa peinture, bien malin serait celui qui arriverait à le déceler, surtout dans les premières années de son arrivée en France, au moment où il peint justement beaucoup de paysages urbains, de vues parisiennes, et qui vont devenir ensuite le canevas de ses premières toiles abstraites. Donc là, je crois qu'on est vraiment très loin du paysage chinois, mais qu'il va continuer à paraître habité par ces paysages qui vont être réactivés d'une manière un peu mystérieuse, à distance, et puisqu'on va voir réapparaître ces formes du paysage chinois dans les années 60, 70, dans les années même qui précèdent le retour de Chu Tae-Chun en Chine.
Oui, puisqu'on est quand même très lié à la Chine durant tout son parcours, notamment avec Chu Tae-Chun, peut-être plus qu'avec Zhao Wuqi. Comment pourriez-vous situer notre académicien, donc franco-chinois, Chu Tae-Chun, à l'intérieur de cette globalité de la peinture chinoise? En quoi est-il donc chinois et en quoi ne l'est-il plus ou l'a-t-il dépassé?
Alors souvent on écrit la peinture d'un pays, d'une nation, dans un cadre justement peut-être un peu trop étroitement national. Moi, j'ai l'impression que pour ce qui concerne le XXe siècle, et c'est peut-être ce qui est la grande richesse de l'art chinois au XXe siècle, c'est justement de voir que, à travers ce qu'on appelle parfois la diaspora chinoise, eh bien, des artistes ont vécu leur expérience artistique dans des contextes sociaux et culturels très différents, européens, américains, que sais-je. Cela, donc, je pense qu'il ne faut pas les exclure et qu'il faut les réintégrer à l'intérieur de cette histoire de l'art chinois, en attendant une histoire de l'art vraiment mondiale, où je pense qu'ils auraient une place majeure. Alors, ce qui est très révélateur, c'est, je pense, le moment du retour de ces artistes en Chine. On voit que
Chu Tae-chun... Après une carrière déjà bien accomplie en Occident.
Oui, parce que finalement, je pense que Chu Tae-chun était foncièrement attaché à la Chine, et c'est vraiment les circonstances politiques qui vont le tenir éloigné de la Chine pendant de nombreuses années. Il est certain que dans la Chine de la Révolution culturelle, les échanges avec l'extérieur étaient très peu nombreux, et il faudra attendre donc ce que l'on appelle la réforme, la réouverture avec Deng Xiaoping à la fin des années 1970 pour qu'il soit possible de voyager plus facilement en Chine. Et ce sera le cas de Chu Tae-chun qui revient à cette époque dans son pays et qui réalise à ce moment-là de grands voyages qui vont l'amener dans des sites très célèbres mais qu'il n'avait pas encore pu connaître. C'est pour les sites naturels, je pense aux montagnes jaunes, les Huangshan, très spectaculaires par le relief vraiment accidenté, incomparable. Et puis aussi des grands sites culturels, en particulier les sites bouddhiques du nord de la Chine, comme le grand sanctuaire de Datong. Alors, pour revenir donc sur cette expérience, il y a aussi la confrontation avec ses anciens amis peintres qui ont poursuivi leur carrière à l'intérieur de la Chine. Comment est-ce que ceux-là vont percevoir le travail de Chu Tae-chun justement après cette séparation de plus de 25 ans? Est-ce qu'ils considèrent que c'est une expression complètement autre? Ou est-ce qu'au contraire, ils s'y retrouvent? Je pense qu'il y a quand même eu un grand choc qui reste lié au fait qu'en Chine, les traditions figuratives et réalistes restait très importante et la voie de l'abstraction semblait tout de même marginale. Mais
il se sentait un peu détaché, disons, de cet état de fait de la scène artistique chinoise au moment de son retour, ou est-ce qu'il y avait une certaine complicité éventuellement quand même qui s'est récréée?
Alors, il y a quelques personnalités hors du commun qui témoignent de cette complicité. Alors, une complicité humaine qui, à mon avis, est nourrie par une compréhension artistique réelle et profonde. Alors, je voudrais parler du cas de l'amitié entre Chu Tae-chun et un peintre chinois qui est décédé tout récemment, qui s'appelle Wu Guanzhong. Et Wu Guanzhong, qui n'est pas très connu en France et qui mériterait d'être davantage connu parce que il fait partie, comme Zhao Qi, comme Chu Tae-chun, des peintres chinois de la deuxième génération arrivés en France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a eu lui aussi ces quelques années parisiennes très fécondes, mais il est retourné en Chine, dans la Chine du début des années 50, et il a connu donc une autre voie, des difficultés bien sûr importantes. Mais au moment où il retrouve Chu Tae-chun, son camarade de l'école des beaux-arts de Hangzhou, eh bien, tout de suite, il y a une grande compréhension. Et aujourd'hui, si on met en vis-à-vis les œuvres de Wu Guanzhong et de Chu Tae-chun, on a parfois l'impression que l'œuvre de Wu Guanzhong est une sorte de paysage qui se serait surimposé sur une peinture abstraite, tandis que l'œuvre de Chu Tae-chun est une peinture abstraite à travers laquelle on arrive à lire les grandes lignes d'un paysage. Donc, c'est vraiment merveilleux d'avoir ces deux artistes l'un à côté de l'autre, d'autant plus qu'ils ont été de grands amis. Quand Wu Guangzhong a pu revenir en France et exposer à Paris, c'était grâce à Chu Tae-chun. Donc, je crois que ce vis-à-vis permet d'éclairer et de comprendre mieux la peinture de ces deux artistes.
Oui, mais il faut probablement vraiment l'œil d'un connaisseur subtil pour le découvrir. Grâce à vos explications, on le sait, on aura plus de facilité de le voir. Mais est-ce qu'il a réussi à influencer éventuellement la scène artistique chinoise, Chu Tae-chun, après son retour?
Je pense qu'il a apporté quelque chose aux artistes de sa génération qui avaient envie, dans ce contexte d'une ouverture, eh bien, de réaffirmer la possibilité que toutes sortes de peintures étaient possibles à travers toutes sortes de médias et qu'on n'était pas forcément attaché au sujet ou limité à certaines réflexions politiques. Et finalement, la peinture abstraite, c'est aussi la revendication d'une liberté dans la recherche formelle. Et cela peut sembler évident, mais cela était vraiment très important dans les années 80 en Chine. Donc je pense qu'en ce sens, l'œuvre de Chu Tae-chun venait conforter certaines aspirations des peintres de cette période. Même si, bien sûr, il semble difficile de trouver un lien entre l'œuvre de Chu Tae-chun et la peinture des générations plus récentes de la scène chinoise contemporaine.
Oui, et la liberté d'expression était très 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 importante pour lui dans la découverte de l'art abstrait.
Oui, je crois que... Ouais.
Écoutez, après ce premier aperçu du monde de Chu Tae-chun, marquons une courte pause, si vous voulez bien, avec bien entendu une musique venant de l'ancien empire du milieu. Comme il est étrange à nos oreilles d'entendre ces notes de musique chinoise, alors que la peinture peut nous frapper spontanément sans y être préparé, n'est-ce pas?
Mais je crois que Chu Tae-chun, justement, qui lui-même préfère la musique occidentale à la musique chinoise,
ah oui,
s'est intéressé beaucoup, peut-être à partir des années 90, à ses rapprochements musicaux. À ce moment-là, il a créé des polyptyques très importants et je crois que, d'après les titres qu'il a donnés à ses œuvres, on se rend compte qu'il les concevait comme une espèce de symphonie, donc avec des références à la musique occidentale plus que chinoise.
Ah oui. Alors, pour Chu Tae-chun, comme pour Zhao Wuqi, ce grand voyage en Europe que vous venez d'évoquer longuement, à Paris notamment, était une rupture fondamentale et un déclic essentiel dans le développement de sa peinture. Et chacun de ces deux artistes avait, disons, son déclencheur artistique. Pour Zhao Wuqi, c'était Paul Klee, comme nous avons vu. Et pour Chu Tae-chun, ce fut apparemment Nicolas de Staël. Peut-on le dire ainsi, Éric Lefebvre?
Alors, je crois qu'il est tout à fait légitime de le dire, puisque c'est Chu Tae-chun lui-même qui a tenu à toujours rappeler cette dette envers Nicolas de Staël qui lui a permis d'accéder au langage de la peinture abstraite. En fait, c'est la visite de l'exposition rétrospective de Nicolas de Staël à son arrivée à Paris qui va bouleverser très profondément Chu Tae-chun qui, jusqu'à présent, restait très attaché à la représentation du monde à travers des genres bien connus, scènes urbaines ou encore certain nombre de peintures de nus. Il était même un portraitiste accompli. Il avait exposé au Salon des artistes français un portrait de celle qui allait devenir son épouse, Thérèse Tchou. Donc dans une facture extrêmement précise, presque léchée, on pourrait dire. Donc d'un seul coup, ça va être la disparition de tout cet attachement à ces genres et la marche forcée vers un vocabulaire abstrait qui, on va s'en rendre compte au fil des années du développement de l'œuvre de Tchou Te Tchoun, ne sera qu'un autre moyen, qu'un autre mode d'appréhension du monde qui n'est pas un mode qui finalement effectuera un retour vers le concret. Mais à cette époque-là, pour Tchou Te Tchoun, il s'agit d'élaborer un vocabulaire qui d'abord nous marque par son caractère extrêmement structuré. Donc, c'est un travail sur la forme très profond. On voit ces toiles qui sont striées de traits. Parfois, le modèle est indiqué par l'artiste comme ces structures portuaires. Donc, on devine à travers ces formes géométriques, eh bien, un paysage fait de grues et d'acier. C'est ce paysage que Tchou Te Tchoun développe dans ces années avec une utilisation de la couleur déjà très audacieuse et qui caractérisera l'ensemble de son œuvre. Mais c'est à ce moment-là encore des choses qui sont très marquées par la peinture de Nicolas de Staël à travers les empattements, les choix de composition.
Vous parliez de couleurs. Nicolas de Staël a des couleurs très vives. En général, dans son œuvre, selon ses voyages, selon aussi ses périodes, on les retrouve, donc, ces couleurs vives, ou c'est plutôt la technique de Nicolas de Staël qui l'influence?
Oh, moi, je pense que les deux choses l'influencent. L'intérêt de Tchou Te Tchoun pour la couleur, il est magnifié dans son œuvre. Je crois que ce n'est pas la peine d'en dire plus long, même si ensuite, cela prendra des formes qui rendent impossible même l'identification avec Nicolas de Staël. Je pense que dès le départ, ce goût pour la couleur l'a frappé. Je dis couleur et peut-être pas lumière, parce que Tchou Te Tchoun aura aussi beaucoup travaillé sur la lumière. Et je pense que dans ce domaine, ses références sont autres. Ce n'est peut-être pas dans la peinture contemporaine ou moderne, mais plutôt dans la peinture ancienne, la peinture du Gréco, la peinture de Rembrandt, que Tchou Te Tchoun va aller chercher son inspiration et ses références pour développer son inspiration lumineuse.
Ah oui, oui. Et oui, il a été très frappé quand il allait à Amsterdam par Rembrandt, et on le comprend. Et puis, comme vous venez de l'évoquer, un voyage en Espagne, je crois que c'était peut-être sur le chemin vers la France, non, qu'il s'est arrêté à Madrid et qu'il aurait découvert
Le voyage en Espagne, je crois, est le premier voyage de Tchou Te Tchoun après son arrivée en France. Donc, c'est vraiment le deuxième pays européen qu'il va découvrir. Oui. Et je crois qu'effectivement, il y a dans les œuvres du Gréco déjà ces effets lumineux extraordinaires qui vont ensuite influencer Tchou Te Tchoun.
Oui, oui. Donc, je pense qu'il est largement temps maintenant d'aborder de plus près l'œuvre de l'artiste, bien que nous l'ayons déjà beaucoup fait précédemment. Mais on aimerait bien vous demander, Eric Lefebvre, de nous éclairer sur la singularité de son évolution artistique et aussi de sa technique particulière. Et dans un deuxième temps, de nous présenter, de nous faire aimer quelques-unes de ses toiles. Et quand je dis quelques-unes de ses toiles, il faudrait évidemment mentionner aussi la calligraphie dont il est maître, ou encore la céramique dont il est également maître. On a vraiment l'embarras du choix.
Alors, pour évoquer tout d'abord la technique de Tchou Te Tchoun, lors de la grande rétrospective de son œuvre qui a eu lieu à Pékin il y a un an de cela, on a pu mesurer l'importance de ce travail technique dans les premières années de l'artiste. La première partie de l'exposition s'appelait « Grand atelier ». J'aurais presque envie de parler davantage de laboratoire, tant on a l'impression que Tchou Te Tchoun entreprend des travaux parallèles sur justement les effets lumineux d'une part, les problèmes de structure et de composition d'autre part, et puis d'un seul coup, avec ces séries parallèles, se rejoignent, et on a, dans les années 60, l'apparition de grandes compositions dont la complexité est l'aboutissement de toutes ces recherches. Mais je crois que ces recherches ne vont pas s'arrêter là, elles caractérisent l'ensemble de sa peinture. On verra encore plus tard comment, justement, l'huile dialogue d'une certaine manière avec l'encre dans sa peinture, avec des effets complètement neufs. Et évidemment, cela est lié au fait que Chu Tae-chun a continué de pratiquer la calligraphie pendant toute sa vie. Et cette maîtrise du pinceau, il en a donné quelques exemples qui sont absolument étourdissants par leur qualité cursive, absolument enlever cette impression de vitesse. Et ça, c'est quelque chose aussi que, à y regarder de plus près, on peut retrouver en mineur à l'intérieur de sa grande peinture qui est avant tout sa peinture à l'huile.
Oui, et en mineur, vous dites ?
On peut la retrouver en mineur, oui, comme au sens musical du terme.
Ah, d'accord.
Au sens musical du terme, oui, oui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ses compositions souvent monumentales, eh bien, on aperçoit peut-être un petit coin de ciel clair où d'un seul coup, on voit apparaître un trait de pinceau extrêmement léger, extrêmement délié, qui est le pinceau calligraphique de Chu Tae-chun.
On va essayer quand même de mettre une reproduction ou deux sur le site de notre émission pour que nos auditeurs puissent s'étourdir, comme vous dites, et s'émerveiller devant ces calligraphies qui sont d'une somptuosité inouïe. Et donc, outre la calligraphie, il est aussi céramiste. Avant de parler plus en détail de quelques toiles, de quelques huiles.
Alors, plus exactement, plus que céramiste, on peut dire qu'il a utilisé la céramique comme un support qui a renouvelé donc son travail, et en particulier à travers cette série qu'il a réalisée avec la manufacture de Sèvres. Cela fait partie aussi de ces variations de supports que Chu Tae-chun a pratiquées, notamment en peignant à l'encre sur papier ou encore en réalisant certaines gravures, et toujours avec beaucoup de bonheur. Cela l'a amené en quelque sorte, je pense, à simplifier son travail et à en conserver l'essentiel pour le projeter sur une surface finalement qui ne permet pas de revenir comme il aime le faire dans ses huiles, qu'il aime réaliser au moins en deux temps.
Ah oui.
Là, sur céramique ou bien sur papier, c'était l'occasion de faire une création d'un seul jet et peut-être pour ceux qui auraient pu à l'occasion, eh bien, se perdre dans les méandres de sa grande peinture. Je pense que là, il y a comme un fil d'Ariane, quelque chose de très précieux qui permet de peut-être mieux comprendre encore Chu Tae-chun.
Ah oui, c'est-à-dire cette sorte d'autodiscipline alors, de faire en un seul jet, de projeter quelque chose sur, donc en général, ce sont des vases, n'est-ce pas, qu'il fait.
Oui.
Cette façon de ne pas pouvoir revenir, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre ?
Voilà, exactement. Dans la monographie que Pierre-Jean-Rémy a consacrée à Chu Tae-chun, il commence par évoquer la méthode de l'artiste qui dit lui-même séparer son travail à l'huile en deux temps, avec tout d'abord un premier jet qui définit les grandes lignes de la composition, et puis la deuxième partie, quelques jours plus tard, que le peintre appelle lui-même le métier et qui lui permet justement de caler, d'approfondir ses effets. Mmh. Alors évidemment, cette possibilité de l'huile, elle n'est pas offerte à l'artiste quand il travaille sur la surface blanche de la céramique ou encore sur le papier. Du coup, Chu Tae-chun peut-être a ici exercé une sorte d'ascèse volontaire pour livrer l'essentiel du premier coup. Mmh. Et cela nous touche, bien sûr,
voilà,
de manière
ce que j'allais dire. C'est ça qui
très directe.
Voilà, qui ressort, mais même dans les huiles aussi. Justement, alors, vous voulez bien nous présenter quelques-unes de ses œuvres avant le grand choix de l'œuvre ?
Alors, on pourrait commencer par évoquer une série un peu étonnante dans son œuvre, qui est une série où la couleur tellement présente est un petit peu étouffée, comme tenue à distance, parce que l'artiste a recouvert la totalité de la toile d'une neige blanche, une neige de peinture. Et c'est une série donc d'inspiration hivernale qui est liée à deux séjours dans les Alpes, une fois un vrai séjour avec un passage à l'aiguille du Midi, et la deuxième fois qu'il y a la contemplation des Alpes sous la neige, depuis un avion.
Et quel est le titre de cette œuvre ?
Alors cette œuvre, justement, je l'ai citée sans la citer, c'est Inspiration hivernale.
Et qu'il a créé en quelle année à peu près ?
À la fin des années 1980. Mais cette œuvre s'inscrit dans un cycle d'œuvres justement sur le thème de la neige ou sur le thème de l'hiver. Donc on a ici quelque chose d'un petit peu atypique dans l'œuvre de Chu Tae-chun avec cette présence de la couleur, cette présence de la lumière, mais assourdie, comme entrevue à distance et qui est particulièrement intéressante, qui justement nous permet de revenir vers les grandes compositions et vers l'éclatement des grandes compositions avec encore plus de bonheur.
Oui, on voit par exemple de grandes coulées sombres et puis de l'autre côté comme des bambous, ça me vient comme ça à l'idée, qui se cachent derrière ce paysage enneigé.
Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais essayer de vous dire tout à l'heure lorsque je parlais justement d'un paysage chinois que l'on arrive à lire à travers une peinture abstraite de Chu Tae-chun lorsqu'on prend le temps de la contempler. Donc vous venez d'en faire vous-même l'expérience, effectivement, dans cette œuvre. Derrière cette toile maculée de blanc, eh bien on découvre peut-être un coucher de soleil, peut-être justement une forêt de bambou, en tout cas la présence de ce trait calligraphique de Chu Tae-chun.
Oui, qui ressort magnifiquement bien. Et vous avez choisi aussi d'autres œuvres à nous présenter, Éric Lefebvre ?
Oui, on pourrait peut-être parler d'une œuvre qui s'appelle « Vibrante orchestration ».
On retrouve la musique peut-être ?
Voilà, on retrouve la musique, une œuvre toute récente, datée de 2004-2005.
Oui.
Et on voit ici que l'artiste, donc, ces 10 dernières années de création, de 2000 à 2011, eh bien, a développé l'ensemble de ses moyens. Il a eu aussi désormais la chance de s'exprimer dans des formats beaucoup plus grands, ce qui nous permet de ne plus seulement contempler, mais peut-être de plonger dans son œuvre. Et puis cela lui a permis aussi de développer ses effets d'une manière symphonique, comme je l'ai dit.
Ah oui, on voit du Beethoven là.
Voilà, là. Et d'ailleurs,
et
ce n'est peut-être
du clair-obscur.
Ce n'est peut-être pas un hasard si d'ailleurs il a travaillé pour réaliser une très grande composition pour l'opéra de Shanghai. Donc on est aussi dans cet esprit d'une œuvre qui est inspirée par le lieu même où elle doit être exposée et puis qui ensuite évidemment connaît de plus importants développements. On a parfois l'impression dans ses œuvres, en particulier dans cette vibrante orchestration, d'être dans un univers nocturne, peut-être sous-marin, en tout cas un lieu qui est plutôt un au-delà du paysage.
Voilà, donc vous nous avez parlé de cette inspiration hivernale et de la vibrante orchestration qu'on retrouve donc dans ces deux toiles, mais il a eu une énorme production. Malheureusement, nous ne pouvons pas détailler chacune de ses œuvres. Mais par contre, selon le principe de notre série d'émissions, une œuvre, un regard, on va donc vous demander cette fois-ci quelque chose de très difficile, de sélectionner une œuvre que je vous prie de nous présenter pour découvrir ses mystères et ses profondeurs. Éric Lefebvre ?
Alors,
et
justement,
vous avez choisi
cette œuvre s'intitule « La source » le 19 avril 1965. Il s'agit d'une grande huile sur toile de 120 cm par 60 cm.
Donc elle était déjà à Paris.
Elle est réalisée, oui, à Paris. C'est une œuvre qui s'inscrit dans un format vertical et quand on la voit justement, on est saisi par une forme d'élan. C'est intéressant de voir que Chu Tae-chun, comme je l'ai dit, est depuis 10 ans au cœur de ce laboratoire avec ses expérimentations incessantes sur les moyens de la peinture à l'huile et avec tout de même une réflexion qui est inscrite dans ce grand mouvement de la peinture abstraite. Et d'un seul coup, on débouche sur une œuvre qui est datée d'un jour précis. On a l'impression donc que cette source est un lieu précis dans le monde, un moment singulier, et cela évidemment tranche avec tout ce caractère expérimental qui a précédé. On a l'impression que d'un seul coup, il y a une espèce de traversée de ce langage abstrait pour ressaisir, revenir à la réalité, mais c'est une réalité, bien sûr, bien peu réaliste, une réalité transfigurée que celle de cette source qui semble néanmoins surgir au pied d'une montagne, montagne dont les pans sont décrits au moyen d'un pinceau extrêmement subtil et avec une technique aussi très audacieuse puisqu'elle utilise l'opposition, l'impossibilité de rendre compatible l'huile et l'eau et le fait justement que l'huile soit chassée par l'eau qui donne ces grandes traînées qui finalement rappellent un petit peu les effets de l'encre chinoise. Donc tout au fond de ce travail à l'huile, on découvre un peu de l'esprit de l'encre chinoise. Tout au bout de ces expérimentations abstraites, on trouve une appréhension concrète du monde et un paysage de montagne avec une source qui jaillit.
Si je comprends éventuellement votre description, on pourrait la considérer comme une forme de synthèse après ces, disons, plus ou moins 10 ans de laboratoire, vivant déjà en France et en contact régulier avec la peinture occidentale, et il revient un peu vers ses origines chinoises. On peut considérer cette toile comme une synthèse de sa recherche ?
En tout cas, une étape, à mon avis...
importante.
Une étape très importante.
Mais parce qu'on est quand même encore dans les années 65, il a encore fait beaucoup, beaucoup de travail.
Oui,
après,
oui. C'est une étape importante, mais c'est à peu près à cette époque que lui-même utilise, pour parler de sa peinture, cette notion de paysage abstrait. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il est aussi ancré dans la réalité visible et il nous invite à lire ses compositions en y recherchant aussi les lignes de ce paysage. Mmh. Donc cette notion-là, à partir du moment où il l'utilise pour décrire ses œuvres, cela ne l'empêchera pas d'aller beaucoup plus loin et de créer par exemple ces variations hivernales ou encore ces orchestrations que nous avons décrites tout à l'heure.
Oui.
Mais je crois qu'ici, on est vraiment au cœur du moment où il trouve un point d'équilibre entre la Chine et la France, la peinture abstraite et le monde visible. Et on le sent dans cette œuvre.
C'est donc un moment clé dans son évolution.
À mon sens, oui.
Avec cette toile, La Source, donc de 1965. Écoutez, Eric Lefebvre, un grand, un très grand merci de nous avoir fait mieux connaître l'artiste exceptionnel Chu Tae-chun, son parcours, son univers, son œuvre, et quelle œuvre! Et nous lui souhaitons une très bonne santé à notre franco-chinois académicien Chu Tae-chun. Merci beaucoup à vous, Eric Lefebvre.
Merci encore